Grande-Bretagne, les appareils syndicaux candidats à la gestion de la crise. Depuis le début de la crise actuelle, l'aspect le plus notable de la politique des directions syndicales britanniques a été leur silence assourdissant face à la montée en puissance de l'offensive patronale contre la classe ouvrière. C'est ainsi que, aussi bien lors de la première vague de licenciements dans les secteurs liés au bâtiment et à la finance, après l'implosion de la bulle spéculative de l'immobilier britannique à l'automne 2007, qu'après l'extension de cette vague à l'ensemble de l'économie, un an plus tard, suite à la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, les appareils syndicaux ont manifesté un souci évident d'éviter toute initiative tant soit peu visible qui aurait pu permettre aux travailleurs d'exprimer leur opposition aux attaques dont ils étaient l'objet de la part du patronat et de mesurer le potentiel de leur mécontentement. En particulier, contrairement à ce qui a pu se passer en France durant cette période, à aucun moment les directions syndicales n'ont appelé à des manifestations nationales ou même régionales, à des journées d'action et encore moins à des mouvements de grève contre les licenciements, baisse de salaire plus ou moins déguisées et autres aggravations des conditions de travail imposées par les entreprises sous couvert de la crise. Non pas, bien sûr, que de telles initiatives puissent suffire à constituer la base de la riposte nécessaire de la classe ouvrière face à l'offensive du capital, à moins d'être partie intégrante d'un plan d'action contrôlable et contrôlé par les travailleurs avec des objectifs qui constituent une véritable réponse face à la crise. C'est ainsi qu'en France, les journées d'action sans lendemain, organisées par les confédérations syndicales, n'ont été que des démonstrations de force symbolique dont le but n'était pas d'armer les travailleurs en vue d'une riposte, mais avant tout de rappeler au patronat et au gouvernement qu'ils devaient composer avec les appareils syndicaux. Mais le fait qu'en Grande-Bretagne, les directions syndicales se soient délibérément abstenues de toute initiative de ce type, même symbolique, à un moment où les travailleurs étaient inquiets et désorientés face à la brutalité des attaques patronales, avait un objectif bien précis. Celui d'accréditer l'idée que le mouvement ouvrier ne pourrait rien face à la crise. Pendant ce temps, les travailleurs s'entendaient dire de plus en plus souvent par les leaders syndicaux qu'il leur fallait se résigner à prendre les coups sans broncher afin, disaient-ils, de préserver l'avenir. C'est ainsi que petit à petit, on a vu s'ébaucher la politique par laquelle les appareils syndicaux entendaient s'adapter à la crise, en offrant de façon plus ou moins explicite et ouverte leur collaboration à la bourgeoisie et à son État pour mettre en œuvre les mesures rendues prétendument nécessaires par la crise, c'est-à-dire dans les faits en les aidant à faire payer la note à la classe ouvrière, politique qui, il est vrai, est dans la logique de celle qu'ils ont toujours menée depuis bien des décennies. Un lourd passé lié à celui du travaillisme. Une fois les conservateurs revenus au pouvoir en 1979, sous la direction de Margaret Thatcher, leur politique fut un mélange de démagogie réactionnaire, destinée à répondre aux aspirations de leur électorat, et de mesures anti-ouvrières, destinées à décourager toute résistance aux mesures d'austérité qu'ils entendaient prendre contre la classe ouvrière. Mais jamais ils ne s'en prirent vraiment aux appareils syndicaux eux-mêmes. Ainsi, malgré les rodomontades de Thatcher vitupérant contre ce qu'elle décrivait comme les pouvoirs exorbitants des syndicats, elle se garda bien de porter atteinte aux ressources financières des appareils. En particulier, malgré de nombreuses menaces, le système du prélèvement automatique des cotisations syndicales sur la feuille de paye « check-off » ne fut pas remis en cause, ce qui aurait été un coup dur pour des appareils pauvres en militants prêts à percevoir les cotisations des syndiqués sur le terrain. Quant au système de l'adhésion syndicale obligatoire à l'embauche, closed shop, il ne fut banni que 11 ans après le retour au pouvoir de Thatcher, alors qu'il était déjà de toute façon largement tombé en désuétude en dehors de quelques industries très spécifiques. Quant aux lois anti-grève qui furent introduites au début des années 80, elles interdirent les grèves de solidarité et imposèrent toute une procédure préalable, y compris un vote par correspondance sous le contrôle d'un organisme gouvernemental réputé neutre. À ce titre, elles étaient destinées à intimider les travailleurs et servir bien souvent de prétexte au licenciement de grévistes ou à des interventions policières contre des piquets de grève. Mais ces lois ne furent que très rarement utilisées contre les syndicats eux-mêmes. C'est ainsi que les dispositions prévoyant la saisie des fonds syndicaux à titre de sanction ne furent invoquées que 3 fois en tout et pour tout, pendant les 18 ans de régime conservateur. En fait, au-delà de la démagogie politicienne des conservateurs et des discours pro-travaillistes des leaders syndicaux, l'échange de bons procédés dont avaient bénéficié les appareils syndicaux sous les gouvernements travaillistes précédents resta en grande partie inchangé. Les leaders syndicaux perdirent sans doute des sinécures dans les hautes sphères du secteur public, mais ce fut moins parce qu'ils en avaient été évincés, ce qui fut rarement le cas, que par le jeu des mesures de privatisation. En revanche, après les émeutes qui secouèrent les quartiers pauvres des grandes villes en 81, c'est aux appareils syndicaux que le gouvernement conservateur demanda de participer à la création d'un réseau de centres pour les jeunes chômeurs de ces quartiers et de fournir 260 syndicalistes pour occuper des emplois de formateurs. 3 ans plus tard, lorsque Thatcher mit en place son programme phare de formation pour les jeunes chômeurs de longue durée, les leaders syndicaux le célébrèrent dans leur publication comme faisant, citation, « partie intégrante d'une stratégie ouvrière vers la reprise et la reconstruction économique », fin de citation, sans doute parce que, cette fois encore, le nouveau programme devait se traduire par des centaines d'emplois publics de tout type pour leurs appareils. En retour, les appareils syndicaux firent ce que le patronat attendait d'eux. La décennie des années 80 fut bien sûr marquée par la grève des mineurs de 84-85. Mais ce ne fut pas la seule grande grève. Par exemple, il y eut une grève de 4 mois dans la sidérurgie en 80, ni la seule grève dure. La grève des ouvriers de l'imprimerie de Wapping en 86-87 dura 1 an et vit des affrontements brutaux avec la police pratiquement pendant toute la durée du conflit. Toutes ces grèves eurent ceci en commun. Direction syndicale ne les avait pas voulues et ce n'est que contraintes et forcées, pour ne pas perdre tout contrôle sur leur déroulement, que certains des leaders des syndicats directement concernés finirent par se placer à leur tête. Mais ils le firent toujours avec la même tactique, en les cantonnant dans un corporatisme étroit, ce qui permit aux autres leaders syndicaux de se réfugier derrière la législation contre les grèves de solidarité et de marteler auprès de leurs propres syndiqués l'idée qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'abandonner leurs camarades en lutte à leur isolement. Si ces grèves se terminèrent par des échecs, voire par des défaites, comme ce fut le cas de la grève des mineurs ou de celle de Wapping, ce ne fut pas du fait de la législation anti-ouvrière de Thatcher, comme le disent encore aujourd'hui bien des syndicalistes. Ce fut avant tout parce que, face à la détermination de Thatcher et à celle du patronat, qui aurait requis au moins la menace d'une mobilisation sur une toute autre échelle et avec d'autres objectifs répondant aux aspirations de l'ensemble des travailleurs, les grévistes avaient été délibérément désarmés par les dirigeants syndicaux qui s'étaient portés à leur tête. Le nouveau partenariat. En 92, le Parti travailliste perdit sa 4e élection consécutive. Pour les directions syndicales, le bilan des 13 années écoulées depuis le retour au pouvoir des conservateurs n'était pas brillant. De quelques 12 à 13 millions d'adhérents en 79, les effectifs syndicaux étaient tombés juste au-dessus de 8 millions. Et malgré les multiples regroupements effectués entre syndicats corporatistes, nombre d'entre eux commençaient à avoir des difficultés à survivre sur le plan financier. Les leaders syndicaux pouvaient bien accuser les conservateurs d'avoir tout fait pour « liquider le mouvement syndical », selon l'expression alors à la mode parmi eux. Et sans doute, les fermetures d'entreprises dans les vieux bassins industriels du pays, bastions traditionnels des grands syndicats, étaient-elles pour quelque chose dans la baisse des effectifs syndiqués ? Mais pourquoi les anciens syndiqués de ces usines, dont la majorité avait retrouvé un emploi, ne l'étaient-ils pas restés? Pourquoi les jeunes travailleurs arrivant sur le marché de l'emploi ne voyaient-ils pas l'intérêt de se syndiquer? La réalité était que, depuis 1979, la politique des directions syndicales n'avait fait que contribuer à scier de plus en plus profondément la branche sur laquelle elles étaient assises. À force de pousser les luttes des travailleurs dans l'isolement, et de dévoyer leur combativité vers des impasses, voire des défaites, elles avaient contribué à désorienter, sinon à démoraliser la classe ouvrière, entraînant un changement perceptible dans le rapport des forces sociales, au détriment des travailleurs, et une désaffection croissante envers les syndicats. Ce fut dans ce contexte, à la suite de l'échec travailliste aux élections de 92, que certains dirigeants syndicaux, dont les leaders des 3 principaux syndicats ouvriers, de la métallurgie, des transports et des électriciens, entreprirent, conjointement avec une partie de la hiérarchie travailliste, ce qu'ils appelèrent la rénovation du parti, dans le but, disaient-ils, de le rendre de nouveau éligible. Dans les congrès syndicaux, on commença à entendre un langage inusité auparavant, d'ordinaire propre au milieu d'affaires, ce qu'on appela parfois sérieusement, parfois par dérision, le réalisme de marché. Il fallait, disaient les orateurs, que les travailleurs, citation, se mobilisent pour défendre la compétitivité de l'économie britannique, ajoutant que le temps de la confrontation est révolu, etc. Non sans une certaine ironie, au sein du Parti travailliste, le courant le plus chaudement partisan de la rénovation prônée par les leaders syndicaux était formé d'une jeune génération de politiciens aux dents longues qui aspiraient à voir le Parti travailliste se débarrasser une bonne fois pour toutes de ses oripeaux historiques au relent par trop prolétariens et en particulier de ses liens jugés trop étroits avec les syndicats pour se transformer en une sorte d'équivalent britannique du Parti démocrate américain. Ce fut ce courant qui devait bientôt choisir comme porte-parole l'un des siens en la personne d'un jeune et brillant avocat d'affaires nommé Tony Blair. Les dirigeants syndicaux encouragèrent ce courant dans ses aspirations, mais non sans avoir pris leurs précautions. Faire en sorte que la direction travailliste puisse se vanter publiquement d'avoir fait table rase des formules socialisantes de sa charte de 1919 et du rôle prépondérant des syndicats dans ses rangs était une chose, mais le réalisme politique en était une autre. Quoi que puissent dire les amis de Blair, et quel que soit le nombre de donateurs milliardaires qu'ils pourraient collectionner dans les salons des milieux d'affaires, les appareils syndicaux n'en restaient pas moins les principaux bailleurs de fonds du parti, et ils tenaient à conserver en retour un droit de regard sur sa politique. Ce fut sur cette base que fut lancé le processus de rénovation du parti et des appareils syndicaux. Tandis que les leaders travaillistes se lançaient avec Blair dans un éloge débridé de l'économie de marché au nom de ce qu'ils appelaient le nouveau travaillisme, les dirigeants syndicaux chantaient les vertus d'un nouveau partenariat entre les syndicats et les patrons, dans lequel l'objectif commun des partenaires serait d'améliorer la profitabilité de l'entreprise pour le plus grand bénéfice des travailleurs comme des actionnaires. Déjà dans les grandes entreprises, les leaders syndicaux faisait miroiter au patron ce que seraient les nombreux avantages du nouveau partenariat, une fois les travaillistes de retour au pouvoir. Pour bien montrer de quoi il s'agissait, un certain nombre d'accords furent passés dans de grandes entreprises comme British Airways, dans lesquelles il était surtout question des économies, c'est-à-dire des profits supplémentaires offerts à la direction par les leaders syndicaux sous forme de concessions sur les conditions de travail, en échange des quelques pence de rallonge qui leur étaient proposées. Les syndicats à la veille de la crise. Le retour au pouvoir des travaillistes sous la direction de Blair en mai 1997 ne suscita pas grande illusion dans la classe ouvrière. Blair ne l'emporta d'ailleurs pas en surfant sur un raz-de-marée d'enthousiasme, mais plutôt par défaut, parce que le Parti conservateur, usé par 18 ans de pouvoir, n'avait pas réussi à mobiliser son propre électorat. En tout cas, si illusion il y avait, quand même, dans les rangs des travailleurs, elles furent vite dissipées. Non seulement le Parti travailliste entreprit de poursuivre la politique de ses prédécesseurs conservateurs, parfois en l'aggravant, mais en plus il le fit désormais avec l'assentiment obséquieux des directions syndicales, qui, jour après jour, se mirent à abreuver les médias de communiqués pour marquer leur assentiment à chacun des faits et gestes de Blair et de ses principaux sous-fifres. Il ne fut jamais question, pour le Parti travailliste au pouvoir, d'abroger les lois anti-grève passées par les conservateurs au début des années 80, ce qui permit aux appareils de continuer à s'en servir comme principal levier pour contrôler la combativité des travailleurs et isoler les fauteurs de grève sauvage. En revanche, les dirigeants syndicaux eurent leurs petits à côté. D'abord celui d'être représentés par l'un des leurs au sein de chacun des gouvernements successifs, d'abord par John Prescott, un ancien du syndicat des marins, devenu secrétaire général adjoint du parti en même temps que Blair, puis par Alan Johnson, un ancien leader du syndicat des postes et télécommunications. Par ailleurs, on les soulagea de petits tracas que leur avaient imposés les conservateurs, comme par exemple celui de faire confirmer tous les 3 ans par les syndiqués l'autorisation de prélever leurs cotisations sur leur bulletin de paye. Surtout, Blair leur concocta une nouvelle procédure légale permettant à un syndicat d'être reconnu par un employeur comme représentant de ses employés ayant pouvoir de négocier en leur nom. Cette procédure n'était guère contraignante pour les entreprises, et comme elle était conçue pour que tout se fasse par en haut, sans que les salariés aient d'autres droits que celui de remplir une carte d'adhésion, elle convenait autant aux appareils qu'à la plupart des PME auxquelles elle était essentiellement destinée. Par comparaison avec la période allant de 1974 à 1997, la décennie suivante, qui précéda les premiers soubresauts de la crise actuelle, fut relativement calme. Dans les rares cas où les travailleurs réussirent à obtenir des appareils syndicaux qu'ils déverrouillent la soupape pour leur laisser exprimer leur mécontentement, ce fut de façon extrêmement limitée et dans un contexte général qui ne se prêtait pas à la contagion. Car toute cette décennie fut marquée par une accélération rapide de la précarisation du travail qui contribua à accentuer le manque de confiance des travailleurs dans l'action collective. Et tout au long de cette période, une fois encore, les appareils syndicaux accompagnèrent la politique de précarisation et de suppression d'emplois du patronat, monnayant littéralement la suppression d'emplois fixes contre une petite rallonge au profit du personnel fixe restant, rallonge qu'ils pouvaient ensuite vendre aux intéressés comme la part des économies réalisées qui leur revenaient, une grande victoire du partenariat social. Il est rare que les syndicats acceptent de syndiquer des travailleurs précaires, même si ceux-ci occupent le même poste depuis des mois, voire des années. Ils cherchent parfois à le faire avec des intérimaires, mais dans ce cas seulement dans le cadre de sections syndicales liées aux agences dont ils dépendent, de sorte que l'intérimaire syndiqué n'a aucune chance d'être organisé avec ses camarades de travail. Du coup, cette décennie de montée rapide du travail précaire a entraîné une baisse proportionnelle du nombre de travailleurs considérés par les appareils syndicaux comme organisables. Et c'est ce qui explique en grande partie que les effectifs globaux des syndicats soient tombés à 7,5 millions en 2003, puis à 6,7 millions à la fin 2007. Ces syndicats, au nombre de 60, sont tous regroupés au sein du cadre relativement lâche de la centrale syndicat TUC, Congrès des syndicats, qu'ils soient ou non affiliés au Parti travailliste, la plupart le sont. Sur ces 60 syndicats, bon nombre ne comptent que quelques milliers de membres, voire parfois seulement quelques centaines. Mais les trois plus grands, eux-mêmes issus de multiples fusions, regroupent à eux seuls 61% des syndiqués. Il s'agit par ordre décroissant de Unite, issu de la fusion des syndicats des transports, de la métallurgie et des électriciens, avec près de 2 millions de membres, Unison, issu de la fusion du syndicat des salariés municipaux et de celui des travailleurs de la santé, avec 1,3 million de membres, GMB, issu de la fusion d'un syndicat d'ouvriers municipaux et d'un syndicat d'ouvriers de l'industrie navale, avec 590 000 membres. Ce sont ces trois poids lourds qui font en pratique la pluie et le beau temps, tant au sein du TUC que dans les coulisses du Parti travailliste, alors que jusqu'au début des années 90, on en comptait encore plus d'une douzaine. Durant cette dernière décennie, les formes d'intégration des syndicats dans l'appareil d'État de la bourgeoisie se sont également modifiées, en grande partie du fait de la privatisation de pans entiers du secteur public sous Blair et sous son successeur Gordon Brown. De nombreux organismes étatiques, qui auparavant fournissaient aux appareils syndicaux des postes et une partie de leur poids social, dans des domaines comme la formation professionnelle, la sécurité du travail, l'action sociale, l'éducation en général, etc., sont désormais gérés par des sous-traitants privés de l'État. Tandis que les fonds publics financent les profits de ces entreprises, ce n'est plus l'État qui en contrôle le fonctionnement. Et si les appareils syndicaux continuent à y occuper de nombreux postes, ce n'est plus à l'État qu'ils le doivent, mais à ces entreprises sous-traitantes et aux représentants des organisations patronales qui dominent les conseils d'administration de ces entreprises. Enfin, ce qui est vrai des liens des syndicats avec l'appareil d'État est encore plus de leur place dans les entreprises. En l'absence d'un code du travail imposant, comme c'est le cas en France, certaines obligations aux patrons dans leur comportement vis-à-vis des syndicats, comme par exemple la reconnaissance du délégué du personnel, ou même le droit de mener une activité syndicale au sein de l'entreprise, L'existence des syndicats sur le terrain a toujours dépendu en partie d'un rapport de force imposé par les travailleurs et en partie d'un accord tacite entre l'employeur et l'appareil syndical par lequel ce dernier se chargeait d'assurer la paix sociale en échange de sa reconnaissance. Mais alors que dans les années 70, c'était le rapport des forces qui jouait encore, en général un rôle décisif dans le contexte de recul de la lutte de classe depuis le début des années 90, il est passé de plus en plus au second plan dans la plupart des entreprises. Il est vrai qu'il s'agit d'une évolution amorcée depuis longtemps déjà dans certains secteurs. Dès les années 80, par exemple, les syndicats opéraient de fait et étaient vus par les travailleurs dans bien des entreprises du secteur public comme une espèce de hiérarchie parallèle à celle de l'encadrement, qui participait aux décisions affectant les travailleurs et à leur mise en œuvre sans jamais leur demander leur avis et bien souvent contre leur volonté. Aujourd'hui, l'extension de ce mode de fonctionnement des appareils syndicaux à la plupart des grandes entreprises, publiques ou privées, nourrit la méfiance des travailleurs à l'égard du syndicalisme, alimente leur désorientation et ne fait que rendre l'existence des syndicats sur le terrain encore plus dépendante des bonnes grâces patronales, situation dont les appareils syndicaux se sont très bien accommodés, mais qui les rend d'autant plus hostiles à tout ce qui est susceptible de modifier le statu quo, à quelque niveau que ce soit. Le TUC, lobbyiste pour le compte du grand capital. Avec l'écroulement des marchés immobiliers britanniques et américains, en septembre 2007, on vit le TUC et les grands syndicats prendre d'emblée position pour une intervention immédiate de l'État, afin de venir au secours du capital financier. Alors que les emplois commençaient à disparaître par milliers dans le bâtiment et les industries qui lui étaient liées, sans la moindre réaction de la part des appareils syndicaux, le secrétaire général du TUC, Brendan Barber, parlait déjà des sacrifices nécessaires que tout le monde devrait faire pour faire face tous ensemble à la crise et ramener à l'équilibre une machine financière devenue folle. Bien sûr, tout cela était assorti de remarques acerbes à l'encontre de l'avidité des traders et autres banquiers trop épris de risques, présentés comme les véritables responsables de la crise. Mais c'était là le genre de langage dont usait toute la presse, y compris celle des milieux d'affaires, un langage d'autant plus commode qu'il passait sous silence la responsabilité du système capitaliste lui-même, responsabilité que les leaders syndicaux entendaient bien ne pas mettre en cause. Les uns après les autres, les plans de sauvetage annoncés par le gouvernement, d'abord pour le secteur bancaire, puis le secteur financier en général, puis pour les grandes entreprises dans leur ensemble, furent accueillis avec enthousiasme par le TUC, sans qu'à aucun moment soit soulevée la question de savoir qui devait payer la note de ces largesses à la bourgeoisie, ou plus exactement avec l'acceptation implicite du fait que cette note devrait être payée par tous, travailleurs compris, un jour ou l'autre. De même, Brendan Barber se garda bien de remettre en cause le choix du gouvernement Brown de mobiliser les fonds publics au seul bénéfice du grand capital, sans qu'aucun fonds soit débloqué pour fournir un toit aux nombres croissants de familles modestes qui se trouvaient expropriées, faute de pouvoir payer leur retraite en empruntant, comme elles l'avaient fait dans la période précédente, sur la valeur désormais incertaine de leur logement. Quant aux licenciements qui se multipliaient, il n'en était pas fait mention. Tout au plus, les dirigeants syndicaux se déclaraient-ils désappointés par la montée du chômage, sans jamais avancer la moindre revendication visant à l'enrayer et encore moins proposer aux travailleurs un programme d'action pour s'y opposer. En fait, de la fin 2007 à ce jour, les instances centrales des appareils syndicaux se transformèrent en lobbyistes pour le compte du grand capital auprès du gouvernement, réclamant toujours plus de liquidités pour les banques, sous prétexte de sauver des emplois, entre guillemets, en les incitant à prêter aux entreprises, ce qu'elles ne faisaient pas malgré les centaines de milliards qu'elles recevaient, comme tout le monde, ministre des Finances compris, le constatait. Mais les mêmes lobbyistes syndicaux se gardèrent bien, par exemple, de mettre en cause la politique d'un gouvernement qui, bien que disposant de la majorité absolue du capital de trois des cinq plus grandes banques, ne s'en servait pas pour nationaliser les entreprises, réellement défaillantes ou non, qui jetaient les travailleurs sur le pavé et pour les maintenir en activité. Ce rôle de lobbyiste pour le compte des grandes entreprises, Le TUC et les grands syndicats l'étendirent très vite à la plupart des industries, réclamant au nom du patronat de ces industries un plan d'aide d'urgence face à la crise, à l'instar de celui des banques. Dans l'industrie automobile, par exemple, Unite, principal syndicat présent dans ce secteur, lança en février 2009 une campagne intitulée Unite pour l'emploi, dont l'objectif était d'obtenir du gouvernement un plan d'aide à cette industrie chiffré à 14 milliards d'euros. Tony Woodley, secrétaire général de ce syndicat, décrivit cette initiative comme une, citation, « formidable alliance historique associant le syndicat avec des leaders du monde des affaires, des milieux universitaires et de la classe politique ». Fin de citation. Woodley résuma sa raison d'être de la façon suivante, citation, « Sans un effort concerté de notre gouvernement national pour protéger l'emploi, notre position internationale en tant que pays où les employeurs peuvent trouver les salariés qualifiés dont ils ont besoin sera compromise pour bien des années à venir. » Fin de citation. Il s'agissait donc de défendre l'industrie et le patronat britannique contre la concurrence étrangère, ce que d'ailleurs le gouvernement Brown ne se fit pas prier pour faire en introduisant d'une part un plan de subvention directe sous forme de prêt à taux zéro et d'autre part une prime à la casse similaire à ce qui se faisait déjà en Allemagne et en France. Mais il ne faut pas s'étonner dans ces conditions si, lors du point culminant de cette campagne, une manifestation symbolique qui rassembla quelques milliers de militants en mai à Birmingham, figurait en première ligne un certain Lord Jones of Birmingham, plus connu sous le nom de Digby Jones, ancien président de l'équivalent britannique du MEDEF, ex-enfant chéri de Margaret Thatcher et président en exercice de l'Association des patrons de l'automobile. Voilà le genre d'individus que les appareils syndicaux présentent aux travailleurs comme leurs alliés face à la crise, ceux-là même qui les licencient. Les appareils syndicaux promoteurs des licenciements. L'aspect le plus cynique de cette campagne menée par Unite était qu'au même moment, dans tous les secteurs liés à l'industrie automobile et à la construction mécanique, les négociateurs nationaux de Unite et du GMB faisaient la tournée des usines en incitant les travailleurs à voter en faveur de protocoles d'accord qu'ils avaient négociés, qui entérinaient les exigences patronales en matière de suppression d'emplois, baisse de salaire, etc. Cela commença dès octobre 2008 avec JCB, une multinationale fabriquant des gros engins de chantier et du matériel de génie militaire lourd. Les travailleurs des usines du groupe se virent donner le choix par la direction du syndicat GMB entre 510 licenciements, ou bien, choix recommandé par le GMB, 150 licenciements assortis d'une réduction d'horaire entraînant une baisse de salaire de 15%. Faute d'alternative face à ce chantage, le vote donna une majorité pour la baisse de salaire et le GMB se félicita du sens des responsabilités de ses membres. Mais un mois plus tard, JCB annonça une nouvelle charrette de 399 licenciements, puis 700 en janvier 2009 et 97 en février. De charrette en charrette, le GMB se contenta de se déclarer déçu, mais il ne fut plus jamais question de demander aux travailleurs leur avis, ni surtout de leur proposer autre chose que de rentrer la tête dans les épaules. Le partenariat social entre le GMB et JCB avait coûté 1300 emplois aux ouvriers et une baisse de salaire de 15% sans jamais leur avoir offert l'option de résister. Dans l'automobile proprement dite, les précaires furent les premiers visés dès le milieu de l'année 2008. Dans certains cas, comme à l'usine BMW de Cowley ou à l'usine Nissan de Sunderland, ces précaires étaient des intérimaires qui occupaient le même poste depuis des années, jusqu'à 7 ans dans certains cas. Mais qu'importe, Unite, qui organise ces usines, ne s'en souciait guère. À telle enseigne qu'à l'usine BMW, les responsables de Unite ne jugèrent même pas bon de les avertir de la mesure de licenciement qui les visait, dont ils avaient été informés de longue date, et qu'ils se chargèrent eux-mêmes de leur annoncer à la fin de leur dernière équipe qu'ils n'auraient plus à revenir à l'usine. Par une cynique ironie, ce fut précisément cette semaine-là que Unite choisit pour lancer sa campagne pour l'emploi dans l'automobile. Puis vint le tour des ouvriers fixes. Chez Jaguar Land Rover, les deux syndicats du groupe, Unite et GMB, laissèrent passer sans broncher une série de charrettes de licenciement, 1500 au total, entre novembre 2008 et janvier 2009. Puis, après que la direction eut agité la menace d'une nouvelle charrette de 1400 suppressions d'emplois, les négociateurs nationaux des deux syndicats virent au vote la proposition suivante, présentée comme une victoire. Pas de licenciement pendant 2 ans, mais cela n'excluait pas les suppressions d'emplois par départ « volontaire » entre guillemets, moyennant quoi les ouvriers devaient accepter une baisse de 12,5% des salaires, assortie d'un gel du taux horaire et la mobilité totale sur l'ensemble des usines du groupe. Il y eut 70% de oui parmi les 7000 OS concernés, ce que les leaders syndicaux saluèrent dûment comme un vote de confiance pour leur politique. Mais une fois de plus, ils avaient pris grand soin de convaincre les ouvriers que toute résistance était inutile et que d'ailleurs les directions syndicales s'y opposeraient. Pendant ce temps, le trust indien Tata, propriétaire de Jaguar Land Rover, avait empoché discrètement une subvention de 30 millions d'euros et s'apprêtait à en empocher une autre de 550 millions, réclamée à grands cris en son nom par les leaders de Unite. Le même scénario lamentable se répéta chez Toyota, où, après avoir licencié 200 intérimaires et ouvert un programme de départ volontaire pour les travailleurs fixes, la direction annonça une baisse de 10% des salaires pour 1 an. La seule réponse des dirigeants de Unite, seul syndicat présent dans les deux usines britanniques du groupe, fut de déclarer, citation, « Cette proposition constitue une véritable opportunité de restaurer une certaine stabilité chez Toyota dans les mois à venir et nous la recommanderons à nos syndiqués. » Fin de citation. On pourrait ainsi multiplier les exemples dans l'automobile et les industries connexes, mais aussi dans les services, y compris les grandes banques contrôlées par l'État, qui ont licencié leurs employés par dizaines de milliers sans que leur syndicat, Unite encore une fois, et d'autres réactions que d'exprimer ses regrets face à de telles mesures. Ce que d'ailleurs les dirigeants de ces banques ne manquaient pas de faire eux-mêmes. Les regrets ne coûtent rien. Tout cela ne veut pas dire que les travailleurs ont accepté partout sans broncher les attaques qui les visaient, bien au contraire. Là où les appareils syndicaux leur en ont donné la possibilité, ils ont répondu solidement aux actions qui leur étaient proposées, en particulier dans le secteur semi-public et les transports privatisés. Mais pour l'essentiel, ces mouvements, étroitement corporatistes et très limités tant sur le plan géographique que par le nombre de travailleurs concernés, sont passés largement inaperçus. Et c'est justement parce qu'ils s'étaient assurés de pouvoir contrôler ces mouvements de bout en bout, sans craindre aucun débordement et sans risquer qu'ils marquent l'actualité politique, que les appareils syndicaux ont offert à ces travailleurs la possibilité d'exprimer leur mécontentement de façon collective. De la promotion à la gestion des licenciements. Tout en ayant été également étroitement contrôlés par les appareils syndicaux, deux mouvements sociaux ont attiré plus particulièrement l'attention des travailleurs. L'un chez les ouvriers sous-traitants de la construction, du fait de son caractère spectaculaire et en apparence explosif, et l'autre chez les postiers, du fait du nombre important de travailleurs concernés. Mais derrière ces deux mouvements, c'est en fait encore une autre forme du partenariat de crise offert par les appareils syndicaux au patronat que l'on a vu se dessiner. Les ouvriers sous-traitants de la construction industrielle sont des ouvriers pour la plupart très qualifiés, embauchés pour des chantiers de durée limitée dans la construction, la rénovation ou la grosse maintenance d'installations industrielles, centrales électriques, raffineries, usines chimiques ou sidérurgiques, etc. Ils ont été lourdement frappés par la crise, puisque environ 30 000 d'entre eux sont sans emploi. Il en reste néanmoins environ le double, répartis sur de multiples sites disséminés dans tout le pays. Il existe parmi ces travailleurs une longue tradition de combativité très corporatiste. Pour des raisons historiques, ils sont organisés à peu près à part égale dans deux syndicats, Unite et GMB. À la fin de l'année 2008, sous prétexte de lutte pour le maintien de l'emploi, ces deux syndicats lancèrent une campagne pour imposer aux entreprises d'embaucher en priorité des ouvriers sous-traitants britanniques. Les prises de parole organisées sur les sites se faisaient sous des drapeaux britanniques et des pancartes arborant le slogan « Les emplois britanniques pour les travailleurs britanniques ». Mais le ton chauvin de cette campagne prenait une autre signification si on tenait compte du fait que, sur un certain nombre de sites, il y avait des entreprises sous-traitantes étrangères qui avaient l'habitude de faire venir leurs propres ouvriers. Sur ces sites, la campagne des syndicats équivalait à réclamer le licenciement de ces ouvriers. C'était prendre le risque de jeter une catégorie d'ouvriers contre une autre, laissant au patron tout loisir de tirer parti de ses divisions. Certains responsables syndicaux, un peu gênés par cette démagogie xénophobe, se défendaient en arguant du fait que les sous-traitants étrangers étaient moins payés que leurs homologues anglais et que c'était les patrons qui jouaient les ouvriers les uns contre les autres. Peut-être, mais alors pourquoi ne pas avoir choisi comme objectif l'alignement au plus haut niveau des salaires pour tous les sous-traitants, quelle que soit leur origine, en cherchant à souder les rangs de ces travailleurs autour de cette revendication commune, mais aussi d'objectifs tels que la répartition du travail entre tous en réduction de salaire pour empêcher les patrons de continuer à se débarrasser des ouvriers comme ils l'entendaient et conserver leur travail au plus grand nombre. Mais, comme on le vit plus tard, les objectifs des appareils syndicaux n'avaient rien à voir avec le problème de l'emploi, ni d'ailleurs avec l'embauche de salariés étrangers sous-payés. Suite à cette campagne, en janvier 2009, 800 sous-traitants du site de la raffinerie Total de Lindsay, dans le nord de l'Angleterre, se mirent en grève contre la présence d'une centaine d'ouvriers sous-traitants italiens sur le site. De là, le mouvement fit tache d'huile et en moins de 48 heures, plusieurs milliers de sous-traitants d'une vingtaine de sites aux quatre coins du pays l'avaient rejoint. La propagation spectaculaire et quasi nationale de ce mouvement de grève sauvage marquait les esprits. Les leaders syndicaux ne leur donnèrent pas leur aval officiel, mais les permanents régionaux le firent de fait, en donnant aux grévistes les moyens matériels pour se déplacer d'un site à un autre. De toute façon, c'était le plus souvent ces permanents qui organisaient l'extension et les appareils n'avaient aucune raison de craindre d'être débordés sur un tel terrain. Pendant les 6 mois qui suivirent, il y eut toute une série de telles vagues de grèves sauvages, plus ou moins importantes. Elles culminèrent en juin, lorsque Total, excédé, fit l'erreur de licencier 647 ouvriers sous-traitants grévistes. La riposte fut une vague de grève dépassant toutes celles vues depuis janvier, et cette fois la grève tint 18 jours, jusqu'à l'annonce par Unite et le GMB que Total avait cédé et qu'il recommandait la reprise du travail. En fait, si Total avait effectivement annulé les licenciements, l'accord ne comportait rien pour protéger l'emploi des ouvriers sous-traitants. Non seulement la durée de la semaine normale de travail restait à 44 heures, mais Total y réduisait la durée garantie d'embauche à 4 semaines, ce qui constituait un recul pour beaucoup. En revanche, cet accord comportait une clause prévoyant la nomination par les deux syndicats d'un permanent commun pour le site, chargé de mettre en place avec la direction les horaires et les effectifs nécessaires à la réalisation des objectifs de productivité et de vérifier leur conformité avec les accords nationaux. Les appareils syndicaux avaient obtenu de pouvoir assister le service du personnel en pleine période de licenciement. Quelques mois plus tard, un nouvel accord national était négocié avec les employeurs du secteur par les deux syndicats, dans lequel figurait une version pratiquement identique de cette clause applicable désormais à tous les sites. C'était dans cette clause que se résumait l'objectif de la campagne menée depuis janvier par Unite et le GMB. Qu'importe pour eux que cette campagne au relent nauséabond puisse avoir laissé des rancœurs ou des divisions parmi les travailleurs, ou qu'elle ait pu se traduire par le licenciement de centaines de sous-traitants étrangers. La prétendue menace des ouvriers étrangers sous-payés n'avait été pour les leaders syndicaux qu'un moyen de justifier leurs offres de services aux patrons dans la gestion du personnel et donc dans la mise en œuvre des attaques patronales contre les travailleurs. C'est néanmoins dans le service postal d'État, Royal Mail, le secteur qui a vu l'autre mouvement important des 2 années écoulées, que de telles offres de services de la part des appareils syndicaux ont pris le caractère le plus patent. Car à Royal Mail, la direction du syndicat des postiers CWU ne s'est même pas cachée derrière un prétexte quelconque pour justifier sa volonté de participer à la mise en place des attaques de la direction. Dans un service en cours de modernisation depuis 2007, en vue de sa privatisation, les leaders du CWU ont toujours dit et répété qu'ils acceptaient la modernisation et toutes ses conséquences. Ils n'ont jamais remis en cause ni les dizaines de milliers de licenciements passés, ni ceux qui sont prévus, ni la charge de travail insupportable des facteurs, doublée voire triplée en un an. Leur seule aspiration, la seule réelle revendication qu'ils ont fixée aux 3 mois de grève partielle qu'ils ont organisée à partir de juin 2009, a été d'être associés à l'introduction des mesures de modernisation. Ces 3 mois de grève partielle furent spectaculaires, chaotiques et inefficaces. Mais quand les leaders du CWU annoncèrent pour la première fois un arrêt de travail national de 48 heures pour le début novembre, la Royal Mail décéda sans difficulté. La direction concéda sans problème au CWU le droit de participer à la mise en place des mesures de modernisation qu'ils revendiquaient à tous les niveaux. En décembre 2009, au niveau national comme au niveau local, les responsables du CWU étaient donc en discussion permanente avec des cadres spécialement désignés à cet effet. Pendant ce temps, les attaques contre les postiers continuaient, comme si de rien n'était, mais de fait avec l'estampille du CWU. Quant aux postiers, qui, comme à Londres, avaient perdu de 15 à 19 jours de paye pour rien dans les grèves partielles de l'année, ils avaient le sentiment justifié d'avoir été bradés par leur syndicat. Jusqu'à présent, l'offensive patronale n'a pas suscité en Grande-Bretagne, pas plus qu'ailleurs en Europe, d'explosion de colère, même limitée, dans la classe ouvrière. Et c'est bien la seule chose qui permet aux appareils syndicaux de continuer à pousser de plus en plus loin leurs avances et offres de services au patronat et à la bourgeoisie. Mais nous avons toutes les raisons de penser que, même assistés par les plus serviles des appareils syndicaux dans la crise actuelle, l'avidité insatiable de profit du patronat le poussera forcément un jour ou l'autre à aller juste assez loin pour la provoquer, cette explosion de colère. Et alors, dans la lutte, la classe ouvrière britannique sera trouvée dans ses rangs des militants dévoués à ses intérêts de classe pour régénérer un mouvement ouvrier capable de la représenter et de la mener au combat. Article rédigé le 3 janvier 2010.